Hier, nous nous sommes étendus sur la première partie du récit que je vais vous lire, ou plutôt vous relire. Nous allons nous y raccrocher. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, et à partir du verset 17. Il s'agit d'une femme, la Sunamite. Nous avons vu qu'elle et son mari ont construit une chambre pour recevoir le prophète Élisée. Et Élisée a fait la promesse à cette femme au nom de l'Éternel qu'elle enfanterait un fils, qu'elle aurait un fils. Et cette femme, est-il écrit, devint enceinte. Elle enfanta un fils, et l'année suivante, à la même époque, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, coucha l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit seller l'âne et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, « Ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Airain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis son bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui lui dit, « Prends ton fils. » Et elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Je rappelle que dans la première partie du récit, nous avons fait la connaissance d'une femme de distinction qui avait une piété offensive et une foi pratique à côté d'un mari plutôt effacé. le jeune fils de cette femme était un miracle de la grâce de Dieu, comme le sont d'ailleurs toutes les autres œuvres de Dieu, qu'elles s'appellent la nouvelle naissance individuelle ou l'assemblée collective, ou toutes les autres merveilles issues de la prédication de l'Évangile. Elles ont toutes pour origine une intervention divine. Mais il y a un ennemi à l'affût qui veut détruire ces œuvres, et nous savons qu'il y réussit parfois, au point que même le vase dans la main du divin potier peut rater, comme nous le rapporte Jérémie, chapitre 18. À plus forte raison, y a-t-il des dégradations là où l'œuvre de Dieu est confiée entre les mains de l'homme ? À Éphèse, le premier amour est abandonné. À Pergame, la doctrine se relâche. À Thyatire, elle est franchement corrompue. À Sardes, l'œuvre est stoppée à mi-chemin. Et à Laodicée, elle est devenue méconnaissable. Toutes ces assemblées des premiers chapitres de l'Apocalypse étaient pourtant le produit d'un miracle de Dieu. Mais même un miracle ne met pas une église à l'abri du déclin. Une assemblée peut avoir, comme ce jeune enfant, la tête souffrante et être entraînée à une disparition rapide. Une autorité sur le déclin, des centres nerveux qui ne commandent plus, et c'est la mort certaine à brève échéance. D'ailleurs, comme cette femme, nous assistons impuissants au déclin de la vie spirituelle, et ce déclin, s'il n'est pas mondial, il est en tout cas européen. Mais lorsque l'œuvre est vraiment de Dieu, comme l'enfant dans ce récit, lorsque l'œuvre est vraiment de Dieu, la situation, fût-elle à son point le plus sombre, elle n'est jamais désespérée. Le vase est-il gâché ? Qu'à cela ne tienne, Dieu en refera un autre. La terre, œuvre de Dieu, est-elle devenue chaos, selon ce qu'en disent les premières lignes de la Genèse ? Eh bien, l'Esprit de Dieu planera sur les ténèbres de la mort pour la remettre en état et la rendre habitable pour l'homme. Le premier Adam a-t-il failli ? Dieu enverra le deuxième Adam pour le sauver. La nuit du Moyen-Âge a-t-elle maintenu les hommes dans l'ignorance ? Dieu, par la réforme, fera éclater l'aube libératrice d'un jour nouveau. Le protestantisme est-il entré dans une période d'apathie ? Les 18e et 19e siècles verront naître les réveils religieux d'où sortiront quantité de témoignages évangéliques. Les hommes disent « tant qu'il y a vie, il y a espoir ». Mais parce que nous croyons en un Seigneur vivant, ressuscité, nous disons « y aurait-il mort que nous garderions espoir parce que nous nous confions en celui qui ressuscite les morts ». La situation actuelle dans les églises ne peut pas être plus sombre et plus difficile que celle qui nous est rapportée dans ce deuxième livre des Rois au chapitre 4 que nous avons lu. Et le même Dieu qui par sa puissance a fait reculer la mort et renaître à la vie, peut aussi dans les temps particulièrement difficiles que nous traversons, répondre au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ici, comme souvent dans l'œuvre de Dieu, les agents humains entrent en scène, et ils sont au nombre de quatre. Quatre personnes vont graviter autour du salut de l'enfant. Le père, la mère, Géasi et Élisée. De ces quatre personnes vont sortir quatre réactions différentes qui se retrouvent aujourd'hui chez ceux qui sont partie prenante dans l'œuvre de Dieu. Et parmi ces quatre personnes, deux seulement vont jouer une part importante et décisive. Les deux autres ne seront que des figurants de deuxième ordre, des acteurs de deuxième rang. Je n'oserais pas les traiter de parasites, car si le Saint-Esprit a bien voulu nous en parler, c'est afin que de leur effacement nous en tirions une leçon. Certes, ils auront leur part des réjouissances à la fin, comme au tribunal de Christ. Chacun recevra sa louange du Seigneur, nous dit 1 Corinthiens 3, versets 14 et 15. même ceux qui seront sauvés comme au travers du feu, mais leur part sera bien mince. Car s'il n'y avait eu qu'eux, l'œuvre de la génération ne se serait jamais faite. Ces deux personnages plutôt médiocres ont nom de, d'abord, le père de l'enfant, et puis Géasi, le serviteur d'Élisée. Alors, voyons tout d'abord le père de l'enfant. Il fut le premier à remarquer les premiers signes de la maladie qui allait emporter son fils. Il avait le don d'observation, mais pas celui de l'action. Et de même, ceux qui sont les premiers à remarquer ce qui ne va pas, ne sont pas toujours les premiers à faire quelque chose pour que ça aille mieux. Comme ce père a envoyé son enfant chez sa femme, il s'en remet volontiers aux autres. Il se décharge sur les autres comme si ce n'était pas leur affaire à eux. Je vous le demande, mais n'était-ce pas son affaire à lui? N'était-il pas son père? N'était-ce pas son fils unique, en plus, son héritier? Eh bien non, il était trop occupé. Et pourtant, sa vie, son travail, ses récoltes n'avaient de sens que dans la survie de son fils. Son fils mort, tout perdait son sens, son intérêt, tout devenait vain. À quoi bon toute cette peine si son unique descendant ne pouvait lui succéder? De même, notre vie chrétienne ne garde son vrai sens que dans la prospérité et la continuité de l'œuvre de Dieu, et c'est pourquoi elle doit nous tenir à cœur. Que notre assemblée locale, qui est aussi l'œuvre de Dieu, qu'elle s'étiole, et c'est toute notre vie qui s'amoindrit, qu'elle meurt, et c'est le témoignage régional du salut qui meurt avec elle. Certes, cet homme avait, pensait-il, d'autres chats à fouetter. Il avait sa récolte à rentrer. Il avait des à-côtés importants. Mais le malheur, ce n'est pas d'avoir des à-côtés importants, nous en avons tous. C'est de mettre nos récoltes matérielles au centre de nos vies et de faire un à-côté de l'œuvre de Dieu. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus n'a pas traité l'œuvre de son Père comme un à-côté. À 12 ans déjà, il y était tout entier. Au reproche de Marie, sa mère, qui ne le comprenait pas, n'a-t-il pas répondu « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Toute sa vie a démontré que son but premier, c'était de faire l'œuvre et la volonté de Dieu. Quand il est entré dans la partie la plus douloureuse de cette œuvre, le temps de la passion, pour accomplir cette œuvre de salut, il s'est tourné résolument, est-il écrit, vers Jérusalem, sachant pourtant le terrible sort qu'il y attendait. Et l'apôtre Paul, qui mettait ses pieds dans les traces de son maître, disait, dans le livre des Actes, au chapitre 20, lors de son célèbre adieu aux disciples d'Éphèse, j'ouvre ma Bible donc au chapitre 20 du livre des Actes, et je vous lis au verset 24, il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Aussi, le détachement de ce père à l'égard de son jeune fils se mesure quand il rencontre sa femme à qui il confie l'enfant. Il ne souffle pas mot. Bah, un cachet d'aspirine et ça passera. Mais la méningite foudroyante ne se guérit pas avec une bonne dose d'indifférence, d'indolence, avec des cachets d'aspirine et du paracétamol. Il trouvera même étrange que sa femme aille vers le prophète. Ce n'était pas le sabbat, ce n'était pas la nouvelle lune. Pour lui, ce n'était pas le moment. Et pour certains, ce n'est jamais le moment de faire quelque chose, de reprendre les choses en main. Il regarde au jour, aux nuages, à la pluie, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, et il laisse passer le jour de l'action. Ils ont leur moment à eux, ils ont leur itinéraire à eux, ils ont leurs heures à eux, comme le héron de la fable qui négligea la carpe et le brochet parce que ce n'était pas l'heure du repas, et il dut se contenter d'un limaçon. Ils ne savent sans doute pas que pour le diable, c'est toujours le moment. Il n'a, lui, ni horaire, ni sabbat, ni nouvelle lune, ni jour de Méphisto. Il sème son ivraie et moissonne en tout temps. Lui, au moins, il n'est pas sclérosé dans un horaire étriqué. Il joue ses airs de perdition sur la harpe à sept cordes des sept jours de la semaine. Aussi, à des attaques qui nous viennent à tout moment et de tous les azimuts, il faut faire comme cette femme, et comme l'a dit l'apôtre Paul, il faut contre-attaquer en temps et hors de temps. On trouve ça dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4 et verset 2. Mais ce langage, cette façon de faire, il ne peut pas le comprendre. Il n'a d'ailleurs jamais compris grand-chose. Certes, il ne s'y oppose pas. Il est d'ailleurs du type qui ne s'oppose à rien parce qu'il ne s'intéresse à rien. Si, il s'intéresse peut-être à ses sabbats, ses nouvelles lunes, les grandes fêtes du calendrier ecclésiastique, mais entre-temps, il faut le laisser tranquille. Il est à sa récolte, à son bricolage, à sa télévision, à son journal, à son jardinage, à son ouverture de la pêche ou de la chasse, il est à sa cueillette des champignons ou à sa coupe d'Europe. Il y a toujours une saison pour quelque chose, et il y a tellement de saisons pour tout qu'il ne leur reste plus de temps libre pour les activités de l'assemblée du dimanche ou de la semaine. L'Église réformée a pour eux cette belle mais triste définition, ce sont des, j'appuie le mot, ce sont des périphériques. On ne sait pas s'ils sont dehors ou s'ils sont dedans. Si le prophète a pris ses repas chez eux, il n'y est pour rien. Si une chambre d'accueil a été construite, il n'y est pas pour grand-chose. S'il a un héritier, c'est deux fois sa femme qui le doit. Son fils sera sauvé, mais il n'y sera encore pour rien. Certes, il est là, mais il compte pour du beurre. Il est la cinquième roue d'un char. Il est comme la roue de secours de ma dernière voiture. Elle était dans le coffre depuis le début, mais je m'en suis jamais servi. Elle était là en cas. C'était un en cas. Lui aussi, il était un en cas. Il était bouclé dans le coffre de ses occupations. Il ne partage ni la vision, ni la souffrance de sa femme. Dans cette scène, il n'est qu'un pâle figurant, tellement effacé et sans relief, qu'il finit par se confondre avec le décor. Il y en a hélas de tels dans l'œuvre de Dieu. Mais je n'ai trop longuement parlé de lui. Passons au deuxième personnage. Le deuxième, c'est Géasi, le serviteur d'Élisée. C'est le peu spirituel serviteur du spirituel Élisée. C'est l'indélicat serviteur de l'honnête homme de Dieu. Si le père de l'enfant est effacé, amorphe et passif, Géasi, lui, c'est tout le contraire. Lui, c'est l'activiste incarné. Il est tout feu, tout flamme. Il veut jouer les premiers rôles, mais ça ne lui réussit pas. Quand enfin il parviendra à faire parler de lui dans le chapitre suivant, ce sera pour son plus grand malheur, car la lèpre de Naaman, du général Naaman, éclatera sur sa figure. Sa spiritualité embryonnaire s'accorde si mal avec les premiers rôles qu'il ambitionne de jouer, que cela va nous valoir une leçon de premier ordre. Frères et sœurs, bien sûr que nous devrions tous désirer jouer un rôle, et même un rôle important dans l'œuvre de Dieu. Aspirer à ce qu'il y a de meilleur, ce n'est pas une faute. Il est écrit dans 1 Timothée 3, verset 1, que celui qui aspire à la charge d'ancien, désire une chose excellente. Paul nous exhorte en 1 Corinthiens 12 à aspirer aux dons les meilleurs. Mais Géasi, lui, est animé d'un zèle intéressé, vaniteux et sans intelligence, comme nous le dit Romains 10, verset 2. Déjà, au verset 27, nous le trouvons manquant de discernement, prompt à juger et à repousser cette femme qui a saisi les pieds d'Élisée. Il n'a pas perçu l'angoisse de son âme. En cela, il ressemble au sacrificateur Élie qui accusait Anne, la future maman du grand prophète Samuel, d'avoir trop bu, parce qu'il la voyait articuler de ses lèvres une prière silencieuse. Géasi était comme Simon le pharisien qui jugeait mal Jésus parce qu'une femme était venue se jeter à ses pieds, les mouiller de ses larmes et les essuyer de ses cheveux. Géasi était comme les disciples qui empêchaient les petits-enfants de venir à Jésus. Et il va continuer à juger et agir de la sorte. C'est dans l'énergie de la chair qu'il s'engage dans l'œuvre de Dieu et qu'il précède les autres. Il a été assez en contact avec Élisée et il a vu assez de miracles pour ne pas saisir qu'il va encore y en avoir un. Mais cette fois-ci, il n'est plus l'assistant. Il a le bâton du prophète en main. Il est porteur d'une mission divine et il veut arriver bon premier. Ah, pense-t-il, on va voir ce qu'on va voir. Moi, Géasi, je vais ressusciter un mort. Mon nom va s'inscrire en lettres dorées dans les annales sacrées. J'aurai mon nom dans la liste d'Hébreux 11. Eh bien, non, il ne l'aura pas. La femme et le prophète, oui, mais pas lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit non. La chair et le sang, c'est-à-dire les bonnes intentions seulement, l'énergie animale, n'hérite pas du royaume de Dieu, ni d'une place parmi les héros de la galerie de la foi. Il y avait mis son enthousiasme, et c'était tout. Il a employé son souffle, ses jambes, la force des jarrets, sans plus. Bien sûr, j'admets qu'il en faut parfois quand on veut aller à la réunion, ou glisser des invitations dans les boîtes aux lettres. On ne le blâmera pas d'être arrivé le premier, ni de s'être attendu à de grandes choses, mais on ne discerne pas en lui le vrai homme de Dieu. Toute son histoire et sa foi embryonnaire sont là pour le prouver. Il avait vécu dans le sillage de la grandeur, sans se hisser moralement d'un pouce. Géasi était allé au travail sans prière, sans préparation préalable, sans persistance et sans foi. Il avait réuni tous les éléments pour subir un échec. C'est pourquoi dans cette entreprise-ci, comme dans celle du chapitre suivant, où nous est rapportée l'histoire de la guérison du général Naaman, ses interventions ne pouvait se solder que par un échec. Et c'est ce qui est arrivé. Pour Géasi, l'histoire se termine par un fiasco en ces mots. Il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Voyons ensuite le troisième agent dont Dieu va se servir. Nous découvrons ici que ce sont ceux qui ont été les plus intéressés pour la naissance qui seront les plus efficaces pour sa résurrection. Et nous trouvons là un grand principe valable pour toute l'œuvre de Dieu. Dieu n'emploie que ceux dont le cœur est vraiment engagé. Il ne veut pas qu'on s'intéresse à son œuvre de loin, en dilettante, même si c'est à grand renfort d'effets spéciaux. Dieu veut des hommes et des femmes qui savent souffrir par sympathie, comme le fit Élisée. Pourquoi Dieu se donne-t-il tant de peine à former quelqu'un avant de l'employer? Pour que cette femme soit prête, Dieu lui avait mis dans le cœur le désir d'avoir un enfant. Pour qu'elle soit prête, il l'avait laissé tenir l'enfant sur ses genoux jusqu'à son dernier souffle, et puisant sur lui toutes les ressources de sa tendresse.
Et c'est parce qu'elle avait souffert, gémi, pleuré, parce qu'elle avait été mêlée d'aussi près à la tragédie du déclin qu'elle était prête à entrer dans un renouveau de vie. Dieu n'emploie que des cœurs engagés. Dans son œuvre, il n'a pas besoin de matuvu ou d'esbroufeurs comme Géasi. Alors comment pouvons-nous savoir si nous sommes prêts à avoir une part importante dans le renouveau de l'œuvre de Dieu? C'est facile à savoir. Souffrons-nous de l'une ou de l'autre forme de déclin au milieu de nous? Quelqu'un qui ne s'intéresse que de loin à l'œuvre de Dieu, qui ne la porte pas, qui ne souffre pas pour elle, qui se contente de gérer une faillite, Dieu ne l'utilise pas. Je le redis, il veut des hommes et des femmes qui souffrent par sympathie. C'est pourquoi j'ai toujours apprécié des jeunes qui venaient de passer par une authentique nouvelle naissance et que, peu après leur conversion, je voyais déjà souffrir pour l'assemblée ou l'église dans laquelle ils étaient entrés. Ils ne la critiquaient pas. Nous sommes tous critiquables quelque part. Je trouvais chez eux la garantie qu'ils étaient dans la bonne voie et qu'ils allaient y persévérer. Alors revenons à cette tsunamite. En s'attachant à la présence d'Élisée plutôt que celle de Géasi, elle sait d'instinct ce que l'apôtre Paul dira plus tard. Les choses spirituelles se communiquent par des moyens spirituels. Cela se lit textuellement dans la version Darby au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, au verset 13, et je vais relire, « Les choses spirituelles se communiquent ou ne se communiquent que par des moyens spirituels. Elle va vers celui qui, elle le sait, comprendra ses angoisses et portera son problème. Elle ne dit rien à son mari. À quoi bon s'adjoindre le concours de quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce qu'elle ressent, même si c'est son mari? Elle voudra, pour le combat qui se prépare, celui avec lequel elle aura le plus d'affinité spirituelle. C'est le meilleur qu'elle veut, et pas moins. Et lorsqu'Élisée, remarquez, lorsqu'Élisée fera mine de déléguer ses pouvoirs à son serviteur en lui donnant son bâton, elle n'acceptera de partir que si Élisée les accompagne. Non, non, elle a trop vécu au contact d'un second plan pour aller de l'avant avec un autre, cet autre utile entre les mains, le bâton du prophète. Elle s'accroche à Élisée au point de le convaincre d'aller. Ah, elle est fille de Jacob, qui lors de son homérique combat avec Dieu lui a dit dans le livre de la Genèse, il a dit à Dieu, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Elle a la pugnacité de la syrophénicienne des évangiles, qui pour décrocher la bénédiction divine, accepte de n'être qu'un petit chien, qui ramasse les miettes de la table du maître, ce qui émerveillera Jésus. Maintenant, la solidité et la constance spirituelle de cette femme se découvrent dans cette phrase du verset 28 qu'elle a prononcée 8 ou 10 ans plus tôt et qu'elle rappelle au prophète. « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit? Ne me trompe pas. » Cet état d'esprit qui a précédé le miracle de la naissance de l'enfant n'a pas changé avec les années. Élisée, lui aussi, est disponible pour l'œuvre de Dieu à ce moment-là comme une décennie plus tôt. Ses sentiments, sa vision non plus n'avait pas changé. C'était la même femme, c'est la même spiritualité, c'est le même homme qui ont permis le premier miracle et qui vont permettre le deuxième. Dites-moi, est-ce aussi vrai pour nous? Mon premier amour pour le Seigneur est-il toujours le même? ce que j'ai désiré, ce que j'étais prêt à faire, ce que j'ai fait pour l'œuvre de Dieu, il y a 5 ou 10 ans, est-ce que je suis prêt à le refaire? Puis-je encore dire, Seigneur, me voici, aussi disponible aujourd'hui qu'alors? Ou bien dois-je donner raison à Alexandre Vinet qui disait, il y a plus de fleurs au printemps que de fruits en automne? Souvenez-vous des premiers temps de votre conversion, où les réunions n'étaient jamais trop nombreuses ni trop longues. Au début de ma nouvelle vie avec le Seigneur, j'ai été frappé par une parole de la Bible que j'ai fait mienne. Elle est dans le psaume 27 et au verset 4. « J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. » Je me suis engagé dès le début sur ce texte-là. Peu après, je suis passé par les eaux du baptême, et j'ai demandé à ce qu'on chante ce cantique dont je vous lis les paroles. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il a saisi mes mains tremblantes. J'ai dit amen à ce contrat. Il étend ses mains bénissantes. C'est en effet lui qui combat. Il dit à mon âme ravie, « Ne t'occupe plus que de moi, et je dirigerai ta vie, et je m'occuperai de toi. » Et les yeux fermés, je m'avance. Tranquille sur le droit chemin, j'entonne un chant de délivrance. Il peut tout, car moi je ne suis rien. Ces 2 strophes ont été au centre de ma vie. C'était là un contrat auquel je me suis tenu. Certes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des luttes, il y a eu des chutes, il y a eu des turbulences et des échecs. Tout ce que vous avez ressenti dans votre vie, je l'ai aussi ressenti. Mais contre vents et marées, je m'y suis accroché, et c'est encore vrai au moment où je me tiens devant vous. Alors voyons enfin le 4e personnage, le 4e agent plutôt. Le prophète Élisée. Le sérieux que le prophète donne à la chose se découvre dans cette phrase du verset 29, où après avoir donné son bâton à Géasi, il l'envoie avec cette recommandation, « Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » Ce qui veut dire, la chose réclame tous tes soins. Ne te laisse pas distraire. Le Seigneur Jésus n'a pas dit autre chose. Un homme qui lui disait, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. » Luc chapitre 9, versets 61 et 62. « Non, ne me retenez pas, dira Éliézer aux parents de Rebecca, qui lui demandent de s'attarder un peu avec eux. Voilà le sérieux qu'il nous faut mettre dans l'œuvre de Dieu, si nous voulons voir revenir à la vie ce qui est près de mourir, comme le dit l'ange à l'église de Sardes, Apocalypse 3, verset 2. Il faut que cela devienne la chose la plus importante, qui retiendra toute notre attention. Sans nous laisser distraire par quoi que ce soit, il nous faut dire avec Paul, « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. » « Je fais une chose », a-t-il dit. Et pourtant, il en faisait d'autres. Il était faiseur de tentes par métier, et dans une certaine circonstance, il reprit ce travail manuel pour subvenir à ses besoins, mais ce n'était pas là son objectif premier. Par nécessité, la vie nous impose aussi beaucoup de choses à faire, toutes utiles, indispensables et bonnes. Mais Paul souligne, je fais une chose, et cette chose aura la préséance sur toutes les autres. Jésus n'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit chercher aussi le royaume de Dieu, mais il a dit rechercher premièrement. Deuxièmement,
Élisée commença par la prière. Arrivé dans la chambre mortuaire où reposait le corps de l'enfant, Élisée commença à prier Dieu. Autrement dit, il mit Dieu au commencement. Si pour des choses humaines et matérielles, comme les récoltes, santé, études, métiers, nous avons parfois recours à la prière, combien plus quand la chose est du domaine de la vie éternelle, donc de l'éternité. J'ai lu que Georges Müller, ce grand serviteur de Dieu du siècle passé, n'écrivait jamais une lettre sans prier. De son temps, les stylos à billes et les stylos feutres à pointe fine n'existaient pas. On se servait de plumes d'oie et chacun taillait la sienne. Georges Müller demandait l'aide de Dieu pour tailler sa plume d'oie. Il introduisait Dieu jusque dans les plus petits détails de sa vie quotidienne. Cette dépendance de Dieu est primordiale, car avant d'influencer les hommes, il nous faut être influencés par Dieu, et c'est cette communion étroite avec le Maître qui nous y prépare. J'ouvre une courte parenthèse sur la prière qu'Élisée avait jugée si nécessaire. J'ai parfois étonné des amis chrétiens en disant que je ne comprenais pas très bien pourquoi la Bible insiste tellement sur la nécessité de la prière. Mais c'est comme ça. Comme le disait Charles Spurgeon, si nous prions, ce n'est pas pour renseigner le Seigneur. Il y a des gens qui disent « Sais-tu, Seigneur, ce qui est arrivé à un tel ?» Mais bien sûr qu'il le sait. Si je prie, c'est donc pour toute autre chose que pour lui fournir des informations. C'est pour avoir ce contact, cette intimité avec lui. Même si je n'ai jamais bien compris la chose, je l'avoue humblement encore, je sais que Jésus est le divin modèle. Lui, le Fils de Dieu, devenu le parfait serviteur, il prenait du temps pour la prière. Jésus nous l'a montré, non seulement en nous enseignant qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière, mais en nous montrant qu'il avait, lui, le Fils de Dieu, une vie de prière, et qu'il priait en tout temps. Il priait avant de choisir ses disciples. Avant et après la tentation, il priait sur la montagne, en un lieu désert, pendant des heures, toute une nuit. Troisièmement, Élisée livra un combat de titans. Toutes ses forces vives furent lancées dans la bataille pour la résurrection de l'enfant. Cela est vrai aussi pour ce qui concerne la mission, l'assemblée, le travail parmi les enfants, les camps, l'évangélisation et bien d'autres choses qui y sont associées. Si le Saint-Esprit lutte et prie avec des soupirs inexprimables, nous dit Romains 8, verset 26, le chrétien animé par le Saint-Esprit en fait autant. Regardez, Élisée, après avoir prié, il se fait tout à tous, il s'étend sur l'enfant, tout était mort en lui, tout, la vision, la parole, l'activité, la chaleur animale, tout. Alors il s'étend sur lui, il le couvre, il met ses yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche, ses mains sur ses mains, ses 36 degrés 8 sur le corps refroidi de l'enfant. C'était la lutte au corps à corps. Quelle que soit l'œuvre de Dieu, le salut des âmes, l'assemblée, les messages à y apporter, la seule façon d'y amener la vie, c'est de s'y étendre, s'y donner, l'imprégner de notre vie et y laisser passer un peu de notre âme. Il faut signaler que ça n'ira pas sans risque, car ce n'est jamais sans danger qu'on entre dans le domaine de Satan. Ce risque, c'est de sentir le froid mortel qui nous pénètre. Comme Élisée a dû le sentir, il a dû descendre, aller ici et là, s'agiter, se réchauffer, et puis recommencer. Pour enrayer le froid mortel qui risquait de le pénétrer,
Après avoir eu communion avec la mort, Élisée a eu communion avec celui qui est la source de la vie. C'est avec lui, avec Jésus, que nous trouverons la chaleur, ce supplément d'âme, comme le disait le philosophe Henri Bergson, le supplément d'âme et la force pour redémarrer de plus belle. Permettez-moi de vous faire voir sous une forme un peu humoristique que dans cette scène, c'est Élisée qui prend froid, mais c'est l'enfant qui éternue. Ce qui revient à dire qu'avec la protection de Dieu, il n'a même pas eu un rhume de cerveau. Il s'en est sorti en pleine santé. Il est toujours vrai, comme le dit le psaume 34, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les protège du danger. Quatrièmement, il a persévéré. C'est là une vérité fondamentale de la vie chrétienne qui devient de plus en plus rare parce que nous ne vivons plus dans le siècle de la persévérance, mais dans celui du mâché, du digest, du tout cuit, du préfabriqué. C'est notre siècle. Autrefois, si vous invitiez quelqu'un à prendre un café, il fallait y mettre du temps, sortir le moulin, moudre le café en grains, y mettre de l'huile de coude, chauffer l'eau. Aujourd'hui, on glisse une capsule expresso dans la machine, on appuie sur un bouton et en un clin d'œil, c'est prêt. Et tout est à la main. La télécommande nous épargne l'effort de nous lever du fauteuil pour changer un programme télévisé, et ainsi de suite. Et cela risque, j'ai dit bien risque, de déteindre sur notre engagement chrétien, qui deviendrait alors une sorte de christianisme presse-bouton, sans effort ni persévérance. Mais lui, au contraire, a insisté. Il n'a pas baissé les bras au premier échec, car, en effet, rien ne s'est passé à la première tentative. Félix Neff, appelé l'apôtre des Hautes-Alpes, qui, à force d'endurance et de fidélité et au prix de sa santé, a apporté le réveil dans les régions spirituellement mortes de Mans, d'Ormillos, Fraissinières, Félix Neff donc, prends l'exemple d'une pompe désamorcée dans le corps de laquelle on verse un litre d'eau. Puis on pompe encore, jusqu'à ce qu'on entende le gargouillis de l'eau qui monte à l'intérieur. Nous, dit-il, c'est ce que nous faisons dans la prière. Nous prions, et dès que les premiers signes de la bénédiction apparaissent, nous nous arrêtons de pomper, nous baissons les bras. Mais lui, Élisée, comme Félix Neff, n'a pas baissé les bras. Il a continué, et sa persévérance a été récompensée. Dieu a mis l'étincelle de vie dans cet enfant. Dieu a honoré sa foi et sa persévérance. Et le rideau tombe sur une scène où, comme dans celle du fils prodigue, ils purent tous commencer à se réjouir. Et c'est ici que la grâce de Dieu surabonde. Ils ne se sont pas réjouis à deux, mais à quatre. La maman du petit garçon, Élisée, Géasi, le père de l'enfant, sans compter sans doute l'enfant lui-même, le reste de la famille, l'entourage et les voisins. Voyez-vous, quand Dieu partage ses grâces, elle ne se divise pas. C'est le miracle des mathématiques divines. Elle se multiplie. Le souhait de mon cœur pour vous ici, c'est... Et quand je dis vous, j'élargis le cercle à de nombreuses assemblées, églises évangéliques et œuvres chrétiennes, c'est que vous connaissiez encore des jours de réveil et de bénédiction, comme dans un passé pas très lointain. Finalement, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que 20 ans dans une vie d'assemblée? Vous vous souvenez certainement des journées inoubliables que nous avons vécues ensemble, ici même, dans ces locaux, de ces invitations faites de main à main, d'ami à ami, de client à commerçant, et de la foule qui a débordé vos locaux, votre assemblée, locaux devenus trop exigus. Ne pouvant pousser les murs, vous aviez installé dans la pièce annexe qui est derrière moi une télévision en circuit fermé pour que chacun puisse voir et entendre. Et dans cette foule qui s'y pressait, il y avait même un ministre d'État invité personnellement et qui nous a honorés de sa présence. Des journées comme celle-là peuvent-elles se reproduire? J'admets que nous vivons des temps difficiles. Mais si chacun ici voulait renouveler l'expérience avec dans son cœur les sentiments qui étaient dans cette tsunamite et en Élysée, je crois que cela est possible. La mort même n'a pas arrêté la bénédiction de Dieu. Je vous redis ce que j'ai dit récemment à des frères de chez nous. Je vous souhaite de ne pas gérer une faillite. Vous ne pouvez pas admettre ça. Dans un an, vous aurez tous un an de plus. Bien sûr, me direz-vous, mais un an de plus, c'est prendre le risque de devoir gérer une faillite. Cette tsunamite pouvait-elle prendre ce risque? Attendre ne serait-ce qu'un mois, ou une semaine, ou 3 jours pour demander le retour à la vie de son fils, c'eût été l'exposer à une disparition définitive et se priver du triomphe de la résurrection? Voulons-nous vraiment la bénédiction de Dieu en réveil et en vie abondante? C'est à notre portée. Ce que nous avons partagé ce soir en est la preuve. La voie est tracée, comme le dit si bien le prophète Ésaïe, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, chapitre 30 et verset 21, « Tes oreilles entendront une parole derrière toi qui dit, c'est ici le chemin, marchez-y. » Eh bien, nous nous recueillons tous dans la prière. Seigneur, dans ce lieu où nous avons connu dans les années passées tant de bénédictions, où nous avons vu des miracles se produire, des gens se repentir, se tourner vers toi, t'accepter dans leur cœur comme leur sauveur. Nous te demandons, Seigneur, que cette vie abondante se reproduise. Nous te demandons que tu nous visites à nouveau et que nous soyons comme des agents disponibles, comme cette femme, comme Élisée le prophète. Nous te demandons, Seigneur, qu'il y ait résurrection, résurrection au niveau des consciences, au niveau des consécrations. Nous te demandons, Seigneur, que Jésus revienne à la première place. Nous te demandons cette bénédiction et nous nous y attendons. Seigneur, donne des prolongements heureux à la rencontre d'aujourd'hui. Nous te demandons, reste avec nous, au nom de ton Fils bien-aimé, notre divin Élisée. Nous te demandons, Seigneur, de bénir. Amen, Seigneur.